appuie bien sur ta. Ça va après.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assistée de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui Fabrice Desmas et Maxime Ingrand.
Cette semaine, nous partons marcher avec des éducateurs de rue et avec des philosophes pour repenser les inégalités.
La production de richesse n'est jamais une affaire individuelle, c'est toujours une affaire sociale, une affaire collective.
L'éducateur de rue, lui, il éclaire la rue. Il est face à ces jeunes qui peuvent être tentés par des kits binaires, des kits de pensée tout construits. Mais si cette place-là, on l'occupe plus, eh bien, on crée des trous dans le tamis qui sont plus grands, quoi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, aujourd'hui on vous emmène en balade, arpenter les rues des beaux quartiers et aussi celles des moins bien famis. À Paris, avec deux philosophes québécois, Guy Vanctil vous embarque pour une déambulation philosophique et économique autour de la question de la juste part, ou comment repenser les inégalités et le partage des richesses tout en gardant l'œil rivé sur les vitrines des enseignes huppées. Car cela ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui même se termine à Davos le Forum économique mondial. Une poignée de responsables politiques et économiques qui se retrouvent dans le cadre intime d'une petite station de ski pour tenter d'améliorer l'état du monde. Car c'est bien là le but affirmé de cette fondation. Identifier les problèmes et chercher des solutions. Seulement, depuis 45 ans que ça dure, les solutions s'apparentent toujours à la même profession de foi ultralibérale. Et au final, les inégalités continuent à augmenter. Selon l'ONG Oxfam, en 2016, le patrimoine cumulé des 1% des plus riches du monde dépassera celui des autres 99% de la population. Autrement dit, 80 personnes possèdent aujourd'hui autant que 3,5 milliards. Alors pendant qu'à Davos, les riches continuent de ressasser les mêmes vieilles idées, histoire de défendre un modèle qui les avantage, Comme un bruit vous invite à repenser le sens de la richesse et du partage. Une balade de santé pour se tonifier les idées. Mais auparavant et sans plus attendre, nous partons à Poitiers, où Antoine Chao, lui, vous emmène à l'autre bout de l'échelle sociale. Dans un quartier où les éducateurs de rue mènent un combat quotidien pour prévenir plutôt que détruire les espoirs d'une jeunesse en mal d'avenir. Comme un bruit qui court, en balade pour repenser les inégalités, c'est jusqu'à 17h et c'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Guy Vanctil.
Hashtag comme un bruit.
Premièrement, la prévention spécialisée, elle est née après la Seconde Guerre mondiale. Elle est liée également à tout le mouvement d'éducation populaire. Et puis ce qui a défini de manière légale la prévention spécialisée, c'est l'arrêté de 72. Donc des principes d'intervention basés sur l'anonymat, la libre adhésion du jeune au suivi éducatif, le secret professionnel, l'absence de mandat nominatif, très important, mais un mandat territorial. Alors l'absence de mandat, c'est-à-dire que les éducateurs de rue ne sont pas amenés à travailler par rapport à un mandat judiciaire ou administratif auprès d'un jeune en particulier, mais travaillent sur des territoires. Des quartiers dits sensibles, repérés notamment par la mairie, la CAF, et puis le CG, Conseil Général, Conseil Départemental maintenant. Et donc les éducs de rue, comme on les appelle, c'est souvent des éducateurs spécialisés, bien que la profession se transforme, et ils sont amenés notamment à aller vers les jeunes en situation de marginalité plus ou moins avancée, qui ne vont plus en contact des autres institutions. Éduque de rue parce que le moyen privilégié, c'est le travail de rue. Donc c'est aller à la rencontre dans la rue des jeunes qui ne sont plus en contact avec les autres institutions, voilà, de manière globale. Alors en face, il y a le quartier des Couronneries, du coup, qui est le plus grand quartier de Poitiers, au niveau concentration d'habitants et au niveau aussi des tours. On va voir au niveau de la morphologie, Saint-Éloi est beaucoup plus composé de petites tours et de pavillons. Saint-Éloi où travaillent Pierre et Julien, duc de rue. Alors voilà, ce quartier est assez enclavé. Au sens où on sait où on rentre et on sait quand on sort de ce quartier. Là, on va voir, il y a une espèce d'arche. On entre dans le quartier. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire au niveau architecture, mais...
Bruxerolles, Saint-Éloi, voilà.
Hop là. Alors, on va aller faire du travail de rue avec Pierre et Julien. La base du métier.
Arrête,
j'adore, moi, c'est le principe de la preuve. Je rends hommage aux gens qui les ont construits. Je trouve que c'est fait intelligemment.
On est avec David Puyot, qui a été longtemps éducateur de rue à Châtellerault avant de terminer ses études d'anthropologie et d'enseigner le métier à l'Institut Régional du Travail Social de Poitou-Charentes à ceux qui veulent devenir EDUCSPÉ et peut-être plus précisément éducateur en prévention spécialisée. Ce ne sont pas les plus nombreux, mais bien ceux qui sont en première ligne sur le terrain, les bien nommés éducateurs de rue qui interviennent dans les interstices de la cité. Depuis les années 80, avec la prédominance dans le débat public des questions d'insécurité, de délinquance, d'identité et dernièrement de radicalisation religieuse, un vent mauvais souffle sur cette discipline. La prévention spécialisée doit prouver son utilité et son efficacité sur fond de baisse ou de réorientation de ses financements, dont les pratiques se fondent sur un rapport de confiance avec des jeunes et refusent de voir ses missions se confondre avec celles des forces de l'ordre. On va partager un moment avec Pierre, qui compose avec Julien l'équipe de prévention spécialisée du quartier Saint-Éloi à Poitiers. On les retrouve dans le local de la Prève avant de partir en balade.
Là, t'es à Saint-Éloi, on va t'as vu ce rôle. Bienvenue.
Merci.
Laissez-vous le café, les gars.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Moi, je m'appelle Pierre Pénichon, je suis éducateur de prévention. Donc, ça fait 5 ans, là, au mois de mars, ça fera 5 ans que je travaille dans ce local. Donc là, on est au local de l'équipe de prévention de Saint-Éloi, donc un quartier de Poitiers, qui est le quartier le plus neuf de Poitiers. En fait, en 90, il n'y avait rien ici, il y avait des champs. Et du coup, moi, je suis arrivé, donc il y a 5 ans, il n'y avait pas d'équipe de prévention ici. Donc il y avait une équipe de prévention qui intervenait sur d'autres quartiers de Poitiers, mais ici, il n'y avait personne. Il a fallu que j'aille un peu à la rencontre des gens dans ce quartier-là, regarder un peu comment le quartier vivait, où est-ce qu'il y avait des gens qui se rassemblaient, ce que les acteurs qui étaient déjà là, hein, club de foot, comité de quartier, mairie, avaient à dire aussi de ce territoire-là et pourquoi est-ce qu'ils y mettaient un éduc, parce que c'est jamais complètement fortuit cette histoire. La mission d'un éducateur de prévention, c'est d'abord de bien connaître son quartier, d'y être repéré et de repérer ce quartier-là. C'est-à-dire du coup d'apprendre à y vivre et à ce que les gens nous voient aussi, comme s'il y avait un apprivoisement un peu... Il y a des grands principes hein, dans la prévention, donc il y a aller vers les gens, se présenter, qui on est, ce qu'on fout là. Après, il y a la libre adhésion, c'est-à-dire que nous, une des grandes spécificités, c'est de pas... on n'a pas de mandat pour intervenir, on a un mandat sur un quartier. Donc moi ici, je suis sur le territoire de Saint-Éloi, il y a 8000 habitants, et potentiellement, en fait, ces habitants-là... Même si j'ai un cœur de métier qui sont les jeunes, mon but c'est de connaître un maximum de gens dans ce quartier.
Donc les jeunes et leur famille aussi du coup.
Les jeunes, leur famille et tous les gens qui pourraient à un moment donné ou se plaindre des comportements des jeunes ou être drôlement contents des actions qu'ils mènent. Mais enfin le quartier, quoi, le lieu de vie, c'est ça qui compte. Et du coup, Saint-Éloi c'est un quartier jeune qui a du mal du coup à se fédérer autour d'images historiques d'habitants qui sont là depuis longtemps. Et du coup, le vivre ensemble n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a une mixité sociale réelle en termes de gens qui bossent et de gens qui ne bossent pas. Mais la dragée haute est tenue par les gamins qui occupent l'espace public et qui génèrent un espèce de sentiment d'insécurité dont le quartier n'arrive pas à se départir. Donc nous, bien sûr, il y a ces jeunes-là avec qui on essaye de bosser, de créer du lien, de surtout pas être dans une réponse répressive, mais vraiment plus dans l'accueil de ce qu'ils sont, de partager des temps là où ils sont. Donc des fois dans la rue, on a eu des débats avec la hiérarchie, hein, tu vois. Est-ce qu'on passe du temps avec eux quand ça fume? Et donc oui, l'idée c'est vraiment de se rencontrer et puis d'essayer, quand c'est le moment, d'être là. C'est vraiment notre premier outil, c'est la relation avec les gens. Et du coup, le moment où ils nous font une demande, d'essayer de l'accueillir et puis de ne pas s'en emparer. C'est leur idée à eux, c'est leur envie et de les brancher avec les bonnes personnes à ce moment-là. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Notre public cible dans les missions de l'équipe de prévention, c'est les jeunes entre 11 et 25 ans, grosso modo, qui peuvent présenter des soucis. Et l'idée de prévention, c'est que les petits soucis ne deviennent pas des gros soucis. Donc du coup, de bien connaître aussi les différents acteurs associatifs, institutionnels de la ville, parce qu'en fait, seul, on ne fera pas grand-chose avec ces jeunes-là. tout ce qui peut faire qu'à un moment donné, à partir de l'histoire d'un gamin qui se livre à nous, on va essayer de rebondir et de lui présenter des gens qui vont lui parler dans son parcours. Quoi.
Mais vous rencontrez beaucoup de jeunes très désocialisés ici, dans ce quartier ?
J'ai envie de dire non. C'est-à-dire que moi, déjà, je pense que si jamais je fais ce boulot-là, c'est que j'ai choisi d'aller dans des lieux où la socialisation est particulière, où du coup, elle est peut-être des fois en décalage avec une norme, mais les gamins, ils sont socialisés, des fois à leur sauce, des fois dans d'autres lieux, des fois, mais ils sont socialisés. Je m'émerveille tous les jours de la manière dont un quartier fait vivre la langue. J'apprends des nouveaux mots, moi. J'étais à l'école, j'étais au lycée, j'étais à la fac, il y a plein de mots qu'on m'avait pas appris, quoi. Et du coup, dans le quartier, il y a tous ces mots-là, et donc, j'en profite, il y a David qui est là pas loin, qui a théorisé un peu le métier, et du coup, qui parle souvent de passeurs, qu'on est des passeurs entre différents mondes, entre différentes institutions, et du coup, moi, avant d'être passeur, j'ai envie aussi d'être traversé. C'est-à-dire, du coup, avant de pouvoir passer, je veux aussi que je puisse être une caisse de résonance à ce qui se dit. Et puis des fois, reformuler, et puis des fois, je comprends rien ce qu'ils racontent, c'est drôle. Mais ils sont socialisés, il n'y a pas de doute. Tu sais, moi, ce métier-là, je le fais aussi parce que si tu me présentes différentes portes, puis tu me dis à gauche, ça se passe vraiment bien. Au milieu, c'est plutôt pas mal, puis à droite, c'est un peu le bordel. Ben, moi, si je fais ce métier-là, c'est que j'ai choisi de prendre la porte de droite. Hein. Tu vois, où c'est un peu le bordel, donc si tu veux, j'ai pas non plus envie de m'étonner et de passer mon temps à décrire en fait les difficultés dans lesquelles se trouvent les gens. Il y a un moment donné, ils sont là, et si je veux que leur histoire leur appartienne, je dois pouvoir moi mettre mes mots sur ce qu'ils vivent. Déjà, ça c'est le premier point. Puis des fois, ça les chagrine, hein. On se revoit pas tout de suite. Hein. Mais si tu veux, du coup, je sais pas, complètement désocialisé. Après, effectivement, il y a des situations sociales qui sont difficiles, qui font écho, qui font mal. On n'est pas que dans des choses, on n'est pas que dans de l'agréable. Hein. Il y a des gens qui vivent la galère, hein, donc il y a des gens qui arrivent, qui sont un peu des invisibles, hein, tu vois, qui arrivent, ils n'ont pas de papier, tu sais pas comment ils sont arrivés à Poitiers, bien souvent il y a de la famille, mais du coup, comment on en parle? Et du coup, moi j'ai pas envie de les mettre dans des cases, d'abord ils me causent, puis après on voit ce qu'on peut faire à partir de ça, quoi.
Je m'appelle Marwan Rescala, j'ai 16 ans, j'habite au Trastet, je traîne souvent à Saint-Éloi. Je suis à la recherche d'un lycée actuellement. Voilà.
Et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?
Je vais être steward. Je travaille dans l'air. Et pour ça, il faut un bac. Il faut que je poursuive mes études.
Et pourquoi tu cherches un lycée ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai eu un souci. On va pas rentrer là.
Ouais, d'accord. Donc t'es plus au lycée, quoi. Tu cherches un lycée. D'accord.
Oui.
Bon, courage.
Mais bon, il est sur la bonne voie. On le voit régulièrement pour trouver un nouvel établissement scolaire. Cool.
Au départ de ce quartier-là, il y avait 250 petits pavillons, donc de la fin des années 70, là, début des années 80, avec une école, puis des champs autour.
Je le sais, Booba, l'appart est petit. Il rétrécit pas, c'est toi qui grandis. Ou bien c'est tes gestes, chaque fois la tuile. Regarde ta veste, t'as renversé l'huile. Et la poivrière dans le chocolat ne prend plus le chat pour une panthère. Les biscuits de Médor pour de vrais biscuits et les courts-circuits pour des météores. Va-t'en jouer dehors. Va-t'en jouer dehors. Et le trottoir tiblon n'est pas assez grand. Qu'avec ton ballon, tu gênes le client. Et tu dis aux autres, le terrain frisbee, pour les cosmonautes, c'est pas chez Bibi. Ici c'est la terre, faut pas d'amalgame. Pour jouer au corsaire, y'a le terrain vague. Ton gilet de sauvetage, c'est le trop gros malin. Si tu trouves ma cage, ça va faire vilain. Va-t'en jouer plus loin. Va-t'en jouer ailleurs. La ville est en flamme, en tir, c'est la jungle. et Boubard en larmes de l'huile plein les fringues. Momon pourra plus danser sur un pied, l'autre a rien stoppé face au tir d'obus. Alors on joue plus. Alors on joue plus. Alors on joue plus. Alors on joue plus.
Donc là, l'idée, c'est de se balader ou il y a un lieu comme ça de, bah de rencontre.
Si en fait, ouais, c'est Pierre, marrant, ouais. Ça, c'est marrant. Je sais pas comment on pourrait dire, mais ça fait un petit peu comme dans les châteaux là. On va pénétrer là vers la demeure seigneuriale. Du coup, au bout là-bas, il y a ce qu'on appelle l'horloge, la place de l'horloge, qui est un ensemble de bâtiments. Il y a une centaine de logements avec une petite cour intérieure qui est ouverte de part et d'autre aux points cardinaux. Mais du coup, où il y a le spot en fait de squat un petit peu des gamins qui sont dans le quartier entre. 12 et 30 piges, puis du coup qui sont là et qui charbonnent pour ceux qui connaissent, qui sont là à vendre un peu, en tout cas qui sont désœuvrés un peu et qui se trouvent des occupations eux-mêmes. Et du coup nous on essaye d'aborder ça sans être jugeant, donc on se pose plein de questions, mais en même temps ils ont eux-mêmes une très bonne définition de ce qu'ils y font. Et du coup là-dessus je me lancerai pas à le définir, c'est plutôt à eux, moi je veux pas leur voler leurs paroles. Donc voilà, on se dirige directement vers ce point-là, et du coup c'est pas anodin non plus. Quoi. Ce qui est un petit peu difficile, c'est comme c'est un quartier tout neuf, en fait les Poitevin, moi je suis né dans cette ville, je suis né à Poitiers, dans un quartier Beaulieu juste à côté, et en fait les Poitevin n'ont pas besoin de venir à Saint-Éloi, c'est-à-dire que si tu n'habites pas à Saint-Éloi, il n'y a pas grand-chose à y faire, il y a un gros quartier juste à côté qui s'appelle Les Couronneries, où il y a un grand marché hebdomadaire, bi-hebdomadaire, alors deux fois par semaine, qui s'y tient, donc en fait tous les Poitevins passent aux Couronneries. Par contre à Saint-Éloi, ça fait 3 ans à peine que la maison de quartier est ouverte où il y a quelques petits spectacles, mais en fait le quartier, la greffe n'est pas encore complètement prise avec la ville. Du coup les gens qui habitent là, il y a un chiffre intéressant, il y a 25% de rotation annuelle. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent à Poitiers, il y a des logements disponibles à Saint-Éloi, ils s'installent, et puis dès qu'ils trouvent quelque chose ailleurs, ils s'en vont. Donc en fait, le quartier, il n'est pas fixé encore. Il n'est pas encore habité, il n'a pas d'histoire encore vraiment. Donc on a ça à faire. Alors je ne sais pas par quel bout le prendre tous les jours, mais on a ça à faire. Et je crois qu'ici, il y a vraiment eu une espèce de volonté. Quand on regarde le quartier, il y a peu d'immeubles hauts. Il y a vraiment une volonté de fabriquer plein de logements différents. Et les urbanistes se sont sûrement dit qu'en mettant plein de logements différents, il y aurait plein de gens différents dedans. Et puis au final, ça ne marche pas si bien que ça. Et donc il y a eu comme ça une... Peut-être un peu de l'ancien directeur de la prévention là, qui m'a embauché, Joël Pio, ça fait 25 ans qu'il dit que ce quartier-là, faut s'en occuper au pouvoir public. Du coup, ça a tardé un peu avec cette pensée magique un peu que ça allait s'auto-entretenir tout seul puisque les gens allaient habiter dans des maisons différentes. Et donc là, on est un peu dans un moment où ça se passe pas exactement comme ils avaient prévu. Voilà. Salut les gars! Donc là, tu vois, là-bas, à l'horloge, si tu veux, je sais pas si on va avoir du monde, et puis après, je te laisserai, voir si on est bien accueilli ou pas. Tu vois, c'est pas forcément... C'est-à-dire, on n'a pas pris rendez-vous, hein, donc la relation journaliste, elle est plus ou moins facile, quoi. Tout de suite, ça réveille des choses aussi de... On est invisible tout le temps, mais les journalistes arrivent, c'est toujours pour nous stigmatiser, tu vois, sur la délinquance, sur pas mal depuis les attentats de Charlie, puis plus récemment, tu vois, t'as ça aussi qui cristallise un peu les positionnements. Après, tu vois, t'as la montée du Front National. Des fois, tu vois, t'as des positionnements identitaires compliqués, tu vois. Notre public, c'est aussi ça. C'est aussi des gens, à un moment donné, qui traversent, qui sont à des seuils de plein de choses et qui, du coup, se disent « Putain, mais moi, je fais quoi, quoi ?»
David Pio.
Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Pierre, c'est aussi la différence entre travail social et intervention sociale. Eux, là, ils sont véritablement sur une défense du travail social sur la durée, avec également une création de liens de confiance avec un territoire, une population, des jeunes, en respectant leur libre adhésion. A contrario de l'intervention sociale, qui est pour des missions spécifiques, sur des interventions ponctuelles, avec des financements précaires. Donc là, avec la prévention spécialisée, on est véritablement aussi sur une défense du travail social, au sens large du terme, qui est remis en cause depuis plusieurs années. Cette vision sur la durée, notamment, de l'action.
Après, me dis pas, ouais, ça va.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Madiba, d'avoir des éducateurs de rue qui viennent, à qui tu peux demander des choses? Est-ce que ça t'a servi déjà?
Ouais, bah ouais, c'est une aide, forcément, parce qu'ils viennent nous voir, ils nous proposent des activités ou ils nous proposent certaines choses, donc forcément, ça peut servir. Ça m'a permis de faire un voyage aussi. Là, ils m'ont proposé deux, trois trucs, et j'espère que voilà, ça va aboutir, mais ils proposent des trucs, c'est vrai. Donc forcément, c'est bien qu'il y ait ça dans un quartier, ça sert.
Et ça fait longtemps que vous habitez ici, vous?
Ouais, moi, ouais. Ça fait longtemps, ouais, ça fait très longtemps, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici. J'ai eu mon bac, là. Là, pour l'instant, là, je fais rien cette année, mais j'espère l'année prochaine, je vais aller à la fac.
Bon, et c'est quoi le programme aujourd'hui, alors?
On est là, on discute. Hein.
Bon, bah, merci. Hein. Ouais. Et bonne continuation.
Merci.
C'est un travail autour de l'informel, autour de la construction au quotidien de ce qu'on peut nommer, moi ce que j'avais nommé l'art de l'ordinaire, c'est-à-dire avec pas grand-chose ici, mais faire tout, autour de la dynamique du territoire, autour du travail autour du vivre ensemble, dans le quartier, etc. Et ça, c'est véritablement un travail aussi sur le long terme et à travers la création de véritables liens de confiance avec la population. Et ça, ça se passe aussi à travers la diffusion de gestes d'hospitalité au quotidien, au sens large du terme. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la mission principale, c'est quand même la protection de l'enfance. Mais les événements de 2005, notamment les émeutes, ont conduit à, finalement, la loi de prévention de délinquance 2007, qui a conduit également à la création d'un fonds qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui a également réorienté les pratiques de manière forte, de part notamment des dispositifs et puis de part des subventions que pour certaines associations, pour survivre, pour vivre, elles doivent demander des fonds et passer par ce dispositif. Et ce qu'il faut savoir, depuis les attentats de Charlie, en mars 2015 notamment, il y a eu 8,6 millions d'ajoutés sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance dédié à la prévention de la radicalisation. Et certaines associations en difficulté mettent en place donc demandent des fonds pour lutter contre la radicalisation. Et forcément, ce qu'on a pu constater sur le terrain depuis quelques mois, c'est que ça réhierarchise finalement les priorités, les missions de certains services. Il y a toujours la mission de protection de l'enfance, mais entre prévention de la délinquance, prévention de la radicalisation, il y a des fonds énormes également, des enveloppes conséquentes, qui font que les dispositifs réorientent également les pratiques en changeant les termes, en lien également avec tout ce qui peut se passer par rapport à tout ce qu'on nous dit aussi sur la radicalisation islamiste, etc. Mais ce que nous dit Pierre et également Julien, c'est qu'effectivement, comprendre ce phénomène est beaucoup plus complexe. Il faut prendre en compte la dynamique territoriale.
Je coupe David, tu vois, j'ai bossé 5 ans avec lui, notre vieil anthropologue, tu vois, c'est bon. En fait, il y a une tension, c'est-à-dire qu'à Poitiers, on a quand même un peu de chance, parce qu'il y a d'autres lieux où je pourrais discuter autrement, mais si tu veux, je suis quand même payé, moi, par de l'argent public. Il y a une convention entre le conseil général, donc le département de la Vienne, et puis l'association qui m'emploie, la DSEA, association départementale pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte. Et si tu veux, avant on appelait ça les sauvegardes, c'est-à-dire que c'est des grosses associations de délégation de services publics qui sont mises en route après la Deuxième Guerre mondiale, qui du coup sont employeurs. Du coup à Poitiers, moi je suis né en 1979, la mairie est passée socialiste à ce moment-là, et ça c'est resté socialiste depuis. Et si tu veux, moi, je sais pas si ça a à voir ou pas. Ça, après, on peut faire de la politique. Mais il n'y a pas trop de tension entre le politique à court terme, la volonté d'afficher des objectifs, etc., et des missions comme l'émission de la Préf, qui sont plutôt ancrées dans le long terme, dans la rencontre, dans l'implantation dans un quartier. Il y a un côté curé hein, dans ce métier. Je veux dire, à un moment donné, tu rencontres les gens, tu te fâches avec eux. Le lendemain, si t'es plus là, bah ils se sont fâchés, ils ont raison, toi. Si t'es encore là, bah t'en reparles. Puis l'histoire s'écrit comme ça. Avec les gens. Et donc ici, on a encore la possibilité de faire ce boulot-là dans le long terme, sans être complètement happé par des discours politiques qui disent on veut du résultat tout de suite, etc. Du coup, si tu veux, on est plus, nous ici, sur une dynamique de création de postes. C'est-à-dire qu'avant, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, il n'y avait pas de poste à Saint-Éloi, d'éducateur de prévention. Donc je suis arrivé, il n'y avait pas de poste. Et il y en a un qui a été créé sans déshabiller les autres quartiers. Après, notre intervention suit quand même la géographie prioritaire. Donc, si tu veux, moi je dis souvent que pour faire de la prévention, il faut souvent prouver qu'il est trop tard. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'est, je saurais pas citer mes sources, je suis pas universitaire. Mais du coup, si tu veux, ici, on a encore la possibilité de,
de se donner de la marge de manœuvre avec les gens, de se poser dans le long terme.
Mais et donc, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que c'est le conseil départemental, c'est une obligation du département, la prévention spécialisée, mais avec financement facultatif. Effectivement, ça se passe bien ici au niveau local, mais dans d'autres départements, finalement, il y a des baisses de subventions qui font que des postes disparaissent ou finalement se retrouvent réorientés.
Donc on a vu des inquiétudes dans les Yvelines, dans le Loiret aussi dernièrement, on y était justement en reportage. Dans les Yvelines en ce moment, il y a une inquiétude sur les associations qui font de la prévention, qui pourraient être mises en concurrence, etc. C'est ça, il y a quand même une dynamique de réduction de ce travail-là de terrain au niveau national.
Moi je ne dirais pas de disparition, mais de remaniement finalement.
Aller dans le sécuritaire non, plutôt que dans l'éducatif, c'est ça.
Voilà, et dans la lutte, la détection, le repérage de signaux liés à la délinquance, voire à la radicalisation. Et on voit actuellement, effectivement, tout ce qui peut se passer par rapport à ce qu'on peut nommer le spectre du radical, où l'analyse est focalisée, même chez les professionnels, chez beaucoup de professionnels, sur la radicalisation islamiste, religieuse, en oubliant la complexité de chaque situation, finalement, liée à l'histoire, aux ressorts psychos, sociaux, historiques, etc., etc.
Donc là, en fait, l'objectif, ça serait de partir avec un groupe d'une dizaine de jeunes, là, cet été, au mois d'août. En Espagne, donc San Sébastien, au Bilbao, on ne sait pas encore, en vélo, en autonomie.
Là, vous écrivez un courrier collectivement.
À Monsieur Roy, en fait, maire de la commune de Selles-sur-Belle, qui sera notre première étape. Et l'objectif, c'est d'être un peu accueilli sur les lieux où on va transiter. Et puis après, si on peut faire des économies et que ça soit gratuit et sympa, bah, on est toujours preneur. Donc, du coup, là, on est en train d'écrire Monsieur Roy, maire de la commune de Selles-sur-Belle, et nous allons...
D'aller en Espagne en vélo. Voilà.
Donc, nous allons faire un voyage à vélo de Poitiers à Saint-Sébastien. Donc, qu'est-ce qu'on veut lui dire maintenant ? Notre première étape, c'est là-bas, on lui dit. On lui dit, notre première étape nous conduira dans votre commune. Donc, notre première étape. Donc, si tu veux, là, si tu fais un modèle de lettres, on l'utilisera. Hein, donc, vas-y, hein, utilise tes sources, là. Et...
Mais genre, je mets... comment faire une lettre ?
Bah, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu utilises ce qu'ils te disent comment faire une lettre, et toi, t'appliques les étapes. Tu commences, t'essayes de parler du projet vélo, d'où on part, où c'est qu'on va, comment on y va, et tu vois ce qu'on a envie de faire pendant ce voyage-là.
Moi, je suis Emmanuel Delestre et je dirige le service de prévention de la Vienne. Bon, on est face à un défi, je pense, culturel, social, économique, et pas simplement, c'est pas une crise sociale, économique, on est face à un défi beaucoup plus grand de société, et c'est ce que nous montrent aujourd'hui les événements. Mais c'est quoi ces événements ? Ça va être aussi, de manière grandissante, le fait qu'il y a toute une marge de la population qui est mise finalement sur le côté, dont les jeunes, dans les quartiers prioritaires, de l'emploi, c'est-à-dire c'est le facteur d'intégration fort, l'emploi. Notre travail, c'est de composer dans ce contexte avec les jeunes pour leur ramener des bases de codes de culturels, sociaux, de les ramener aussi vers le goût de l'effort, mais dans ce contexte-là qui est pas facile. On voit des jeunes qui franchissent des étapes, des jeunes qui sont français, qui vont très loin parce qu'à un moment donné, ils savent plus. Ils se confondent plus à des cadres, ils se confondent plus à des images projectives d'adultes. Et l'éducateur de rue, lui, il éclaire la rue. Il est face à ces jeunes qui peuvent être tentés par des kits binaires, des kits de pensée tout construits. Et l'éducateur, lui, va amener de la complexité, il va amener du débat, il va les aider à penser, à structurer leurs pensées. Mais si cette place-là, on l'occupe pas, on l'occupe plus, eh bien, on crée des trous dans le tamis qui sont plus grands, quoi. Et à un moment donné, il faut absolument continuer à articuler, continuer à proposer ce type de mission qu'on mène pour éviter alors les cas extrêmes. Mais au-delà de ça, en situation préventive, c'est tous ces jeunes qui se cherchent, quoi, en tant qu'ados, pour amener les jeunes à grandir, quoi, tout simplement. Voilà, à grandir.
À lire pour approfondir, Éduquer dans la rue, de Véronique Le Goisiou avec une préface de Laurent Mucchielli, et à suivre l'appel à soutien du collectif Prévention spécialisé des Yvelines qui s'inquiète de coupes budgétaires à venir et de la pertinence d'abandonner la jeunesse des quartiers populaires. Et maintenant, après les quartiers sensibles, on retrouve Guy Ventive dans les beaux quartiers pour voir si le bon sens libéral ou néolibéral ne serait pas un non-sens social et philosophique.
La répartition des richesses dans le monde, l'écart ne s'est jamais autant creusé qu'au cours des derniers mois, si bien qu'aujourd'hui, 1%...
1% des individus les plus riches...
1% des individus les plus riches...
possèdent plus que 99...
davantage de richesses que les 99 autres pourcents...
99% des êtres humains se partageront l'autre moitié des richesses.
Et l'écart se creuse...
Car selon l'étude d'Oxfam, le patrimoine des plus riches augmente toujours plus vite, année après année...
62 individus possèdent autant de richesses que les 3 milliards 500 millions de personnes les plus pauvres du monde.
Ce qui veut dire que 62 individus sont plus riches que le reste de la planète.
Dans la ligne de mire d'Oxfam, les paradis fiscaux.
C'est le rôle que joue l'évasion fiscale en privant les États des ressources qui sont indispensables à la lutte contre les inégalités.
Les pauvres, eux, voient leur patrimoine diminuer sans cesse depuis 2010.
Et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté.
Patrick Turmel, professeur de philosophie à l'Université Laval, Québec.
David Robichaud, professeur de philosophie morale et politique à l'Université d'Ottawa.
Vous êtes les co-auteurs d'un livre qui s'appelle « La juste part, repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grippes ». Alors vous n'êtes pas sans savoir que la France est un pays qui a quand même toujours un intérêt pour la philosophie politique. C'est quoi vos grandes influences, vous, je dirais ? C'est plutôt BHL ou plutôt Botul ?
Avec nos deux philosophes québécois, nous allons faire les péripatéticiens. Pas comme les dames des boulevards Maréchaux ou certains philosophes français, rassurez-vous, mais péripatéticos comme Aristote qui aimait se promener en discutant. Nous partons philosopher en marchant dans les beaux quartiers de la capitale pour s'attaquer à quelques-uns des mythes fondateurs de notre temps présent. Le mythe du self-made man, de la réussite individuelle, du winner qui prend des risques, innove, parvient tout seul à se hisser au-dessus du lot, de cet entrepreneur qui, d'après le ministre Macron, a une vie bien plus dure que n'importe quel salarié. Vous avez entendu le chiffre révélé par Oxfam sur l'écart qui se creuse chaque jour davantage entre les plus riches et la quasi-totalité du reste de l'humanité. Vous aviez entendu Occupy Wall Street qui s'élevait des 99% contre le poids des 1%. Mais optimisation fiscale, paradis artificiel, politique toujours plus dérégulatrice aidant, rien n'y fait, rien ne change. Les plus riches deviennent toujours plus riches et le reste de l'humanité, classe moyenne comprise, sont soigneusement tenus à l'écart de la création de richesses à laquelle il contribue. C'est pourquoi David Robichaud et Patrick Turmel nous auront courage à repenser la juste part, la coopération sociale comme principal moteur de la richesse de toute société contre le bon sens libéral qui se résume à cette pauvre idée « si j'ai un salaire mirobolant, c'est parce que je le vaux bien ». Alors, jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, personne ne réussit tout seul.
Alors nous voici en train de nous balader dans la carte postale parisienne et on se retrouve à se promener et à discuter. Comme vous le disiez, c'est une tradition philosophique aussi, mais simplement nous on ne va pas nécessairement parler des ancêtres de la philosophie, mais bien de ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre monde. Dans quel moment on vit aujourd'hui et dans quel moment vous vous êtes mis à poser ces questions, vous autres, même professeurs de philosophie ?
On vit un moment où un certain nombre de croyances largement partagées dans le discours public encouragent un phénomène que l'on peut observer qui est celui de l'accroissement et l'amplification des inégalités. C'est un discours qui s'appuie au fond sur une conception économiste de la juste part selon lequel faire sa juste part se réduirait à des gestes économiques, donc se réduirait au fait par exemple de produire un bien ou un service ayant valeur marchande. Or, nous voulons montrer, au fond, c'est que faire sa juste part, participer à la société, peut se faire de différentes façons qui dépassent largement le cadre économique. Et ces contributions sont essentielles, non seulement à la vie sociale en général, mais à l'économie de marché en particulier.
En fait, on a une fâcheuse tendance à prendre l'individu pour la seule unité pertinente à considérer sur le marché économique. Donc, quand on observe des succès économique, on a un premier réflexe et un unique réflexe, c'est de présumer en fait un talent exceptionnel de la part de ces individus-là.
C'est le self-made man, comme on dit, pour un anglicisme.
C'est le self-made man, absolument, et on croit fermement dans cette idée. Il y a une espèce de fantasme. Évidemment, tout le monde aime les héros. Dans la sphère économique, on aurait des héros économiques, des gens plus grands que nature, avec des talents, une capacité d'initiative, une créativité absolument hors norme. Et c'est ce qui expliquerait que des gens comme justement Zuckerberg, comme Steve Jobs, Warren Buffett, etc., aient tiré leur épingle du jeu de façon exceptionnelle sur le marché et accumulé des fortunes colossales.
Warren Buffett, le célèbre investisseur qui a passé une bonne année cette année, puisque en moyenne, il a gagné 37 millions de dollars par jour.
Warren Buffett, lui, le troisième homme le plus riche de la planète, a un taux d'imposition bien moins élevé que celui de l'Américain moyen, 17,3%. Bien moins élevé, il est vrai, que celui de sa propre secrétaire, imposé à 25%.
Vous parliez du marché. Quelle place a pris le marché dans la réflexion, dans la conduite des affaires du monde au cours des dernières décennies ?
Oui, en fait, une des choses que l'on fait dans l'ouvrage, c'est quand même donner du crédit à l'économie de marché. De montrer, au fond, que sous certaines contraintes, dans certaines sphères d'échange, de production ou de distribution, l'économie de marché peut être un mécanisme incroyablement efficace pour la production de bénéfices collectifs. Par contre, il y a cette tendance à faire un pas de plus et à considérer que si l'économie de marché, si les mécanismes marchands sont si efficaces dans une sphère particulière, ils devraient l'être dans l'ensemble des sphères de la société. Ce qu'on appelle néolibéralisme, c'est ça, c'est ce que nous appelons dans le livre l'utopie capitaliste. Donc le désir de passer au fond d'une économie de marché à une société de marché, et c'est ce que l'on refuse absolument dans l'ouvrage. Donc faire sa juste part, c'est bien davantage que de participer au marché. Faire sa juste part, c'est notamment étudier. Donc il y a une contribution sociale importante par le développement de connaissances et de talents ou d'habilités par l'éducation, des savoirs. Le fait d'agir comme citoyen est aussi une façon de faire sa part qui n'est pas reconnue par les mécanismes du marché. On pourrait prendre un autre exemple. Tout ce qu'on appelle le travail invisible, le travail domestique par exemple, représente une contribution sociale fondamentale, essentielle, qui n'est pas reconnue par les mécanismes du marché. Et donc c'est une des choses qui nous permettent de justifier la redistribution de la richesse. Dans l'idéologie actuelle, on accorde énormément de place au mérite individuel, au talent, aux efforts. On veut remettre cela en question. De dire que le mérite ou que le talent ou l'effort n'est qu'un des facteurs qui explique le succès socio-économique d'un individu est sans doute pas le plus important. Le mérite joue un rôle, mais ce mérite est façonné par un contexte social et il joue un rôle mineur par rapport à toutes sortes d'autres facteurs sociaux. Le fait que nous ne naissions pas nus sur une île déserte, mais dans une société qui nous offre déjà dès le départ tout un contexte civilisationnel, le fait que d'autres individus contribuent au maintien de la vie sociale et de la vie économique en particulier. Et c'est ce qui nous amène, au fond, à la thèse principale de l'ouvrage, qui est la suivante. La production de richesse n'est jamais une affaire individuelle, c'est toujours une affaire sociale, une affaire collective.
Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, à la COGIP, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers.
Bon, alors nous arrivons sur le pont Bir Hakeim. On a l'impression que c'est un reportage là où, pour le coup, low budget. On part de la maison de la radio et on marche jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce que c'est les beaux quartiers de Paris, donc là où se concentre la richesse, donc là où potentiellement devraient être les winners, ceux qui sont réussis à sortir leur épingle du jeu par la force de leur seule initiative, talent et travail. Mais là, on va vers quoi ? C'est vous qui avez eu cette idée de m'amener vers un stade de foot.
Oui. Le stade de foot est un bel endroit, en fait, pour observer en temps réel la création de contextes qui sont biaisés en faveur de certains individus. Donc, quand on parlait des self-made men tout à l'heure, on a tendance à voir dans certains domaines, le milieu des affaires et le milieu du sport professionnel, une expression plus pure, en fait, de la méritocratie. Donc,
Je vous coupe deux secondes, mais parce que c'est vrai que c'est deux milieux où, de nos jours, on trouve parfaitement justifiable d'avoir des salaires mirobolants.
Absolument. Les salaires des chefs d'entreprise dépassent parfois 300-400 fois le salaire moyen des employés qui travaillent dans l'entreprise, ce qui, pour certains, est tout à fait acceptable, ce qui nous semble complètement aberrant. Et un autre aspect du sport qui permet de faire une analogie intéressante avec le marché, c'est l'idée selon laquelle chaque fois qu'on déréglemente le marché, on arrive à améliorer finalement ses performances. Le sport est un bel exemple, en fait, où les règles sont fondamentalement importantes.
Comme les jeunes là, qu'on voit faire des tours en rond au milieu du terrain.
Tout à fait. Il fait zéro aujourd'hui, il fait quand même assez froid, et les jeunes s'entraînent de façon très, très disciplinée. Par contre, j'ai une suggestion plus rapide et plus efficace pour eux. Ils pourraient simplement décider de se doper ou de briser les genoux de leur adversaire.
Ce serait un moyen plus efficace de gagner.
Un moyen plus efficace de devenir le meilleur joueur de foot de France. Je dis ça en boutade, évidemment, parce que c'est un peu ce que présupposent les défenseurs du marché libre. On présuppose, en fait, que chaque fois qu'on enlève des règles qui contraignent le marché, on va améliorer les performances du marché. Or, il n'y a absolument rien, si on élimine toutes les règles, qui interdit des comportements comme, justement, le sabotage, l'espionnage industriel.
Ce que l'on voit très bien à travers ce genre d'exemple, c'est que le marché n'est pas une zone naturelle d'interaction libre. Le marché est une institution sociale qui dépend de tout un ensemble de normes et d'institutions qui permettent de faire respecter ces normes. Et de ce point de vue-là, l'analogie avec toute forme de compétition fonctionne très bien. Une compétition, qu'elle soit économique ou sportive, est toujours le résultat d'une institution qui cherche à produire certains bénéfices par l'imposition d'un certain nombre de normes. Donc, un sport dépend d'un certain nombre de normes qui doivent être respectées. Même chose pour le marché économique.
Le monde de l'investissement peut être une jungle. Les taureaux, les ours... Le danger est à chaque coin de rue. C'est pour cela qu'à Stratton Oakmont, nous sommes fiers d'être les meilleurs. Des professionnels surentraînés pour vous guider dans la jungle des finances. Stratton Oakmont. Stabilité. Intégrité. Fierté.
Là, on passe, on n'est pas loin de la Tour Eiffel, on passe devant les marchands de babioles qui vendent au noir, d'ailleurs, sur un bout de tissu posé sur le trottoir, leur petite Tour Eiffel de taille différente. Et là, on joue 5 pour 5 euros. Eux, ils sont complètement dans la représentation de celui qui va, en travaillant dur, arriver, peut-être, tout est sa chance. Comme là, on passe devant des joueurs de bonneto, sachant que c'est toujours une arnaque où il y a toujours 2-3 complices qui font semblant de gagner avant que le pigeon vienne pour jouer. Voilà, là, c'est un petit raccourci de l'idéologie économiste dans notre quotidien.
C'est vrai que c'est un mythe qui a une force motivationnelle, qui donne envie à bien des gens de se dépasser. Donc, en ce sens-là, c'est une bonne chose. Puis, en même temps, c'est très largement une illusion. Donc...
En fait, les individus semblent avoir une tendance à surestimer leur propre potentiel par rapport au potentiel d'autrui. Et il y a deux psychologues qui s'appellent Kruger et Dunning qui ont démontré en fait que moins on est compétent dans un domaine, plus on va avoir tendance à surestimer notre compétence et à sous-estimer celle d'autrui. Les implications sont que lorsque on discute, par exemple, l'imposition des grandes fortunes, lorsqu'on parle d'augmenter le fardeau fiscal des personnes les plus riches, plusieurs individus refusent, même s'ils font partie des franges les moins nantis d'une population, ces personnes-là vont refuser qu'on impose un fardeau fiscal très imposant aux personnes les plus riches en croyant à tort qu'éventuellement, ils feront partie de cette catégorie très favorisée.
Il ne faudrait pas trop taxer les millionnaires, des fois que je risque d'en devenir un.
Exactement. Et cette infime chance est supportée par justement cette image du American Dream et de l'idée que toute personne travaillante, avec des idées et créatives, va éventuellement être récompensée par le marché.
Mais il y a aussi cette autre idée selon laquelle le libre marché produit de la mobilité sociale. Et donc, il est important que l'État...
Ce serait une des vertus du marché.
Ce serait même une des vertus du marché. Donc, de ce point de vue-là, la libéralisation du marché, le retrait de l'État, serait un outil qui permet de faciliter la mobilité sociale. Or, ce que l'on découvre, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est l'idée derrière le rêve américain. Mais pourtant, les États-Unis ne sont pas du tout un pays mobile. De ce point de vue-là, vaut mieux être en Europe. Les pays du nord de l'Europe ont bien plus de mobilité sociale que les États-Unis. Ce n'est pas le résultat d'un libre marché, c'est le résultat de sommes importantes investies dans l'éducation, dans la santé, par exemple.
Quand on est riche, c'est pas rigolo. On doit payer beaucoup d'impôts. Alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer. Quand on est riche, on est discret. On est beau.
comme un bruit qui court.
On sent bon.
Notre invité ce matin, Emmanuel Macron, bonjour.
Bonjour.
Quand aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, vous embauchez quelqu'un, vous prenez un risque, c'est la vérité. Mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui.
Quand on est riche, c'est pas rigolo.
Pas toujours.
Alors, je vous fais un peu le guide, hein. David Robichaud et Patrick Turmel, c'est là, nous voici, avenue Montaigne, à Paris. Une des, aussi, des avenues les plus chics, où se concentrent ceux qui ont réussi, en France et partout dans le monde, puisque pas très loin d'ici, il y a le Grand Hôtel, là, il y a les, on va bientôt passer devant les grands couturiers, la haute couture, tous ces symboles de luxe à la française, qui ont été promus au rang d'identité nationale, presque. Mais c'est vrai que vous avez du boulot, vous autres les philosophes, pour essayer de désencrasser les esgourdes et d'ouvrir un peu les regards et les réflexions sur le monde où on en est arrivé avec cette idéologie libérale, de la lutte de tous contre tous, du mérite individuel, pour promouvoir à nouveau des valeurs qui parfois peuvent être prises pour d'affreux gauchisme archaïste, c'est-à-dire celles de collaboration, de coopération. Alors, je ne vais pas dire vivre ensemble parce que ça, c'est un terme qui est insupportable. Mais...
Chez nous aussi. Alors, on se retrouve là-dessus. Oui, c'est vrai. Le livre est, permet, au fond, de démontrer que des formes de redistribution très importantes de la richesse seraient parfaitement légitimes dans une société démocratique où il est assez difficile de déterminer la contribution ou la part de chacun dans la création de la richesse.
Là, on est devant les videurs qui nous regardent de Louis Vuitton, avenue Montaigne. Là, juste après, c'est Dior. Malgré tout, vous disiez qu'on n'a jamais produit autant de recherches. C'est en partie ici qu'elle part.
Voilà.
Je vais regarder juste les prix là, de la petite robe pour enfant Dior. 6 300 €.
6 300 € donc, pour une robe pour une petite fille de 6 ou 7 ans. Alors, dans une société où certains ont encore... de la difficulté à se loger, à se nourrir, c'est difficile de ne pas être choqué. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser les riches de tous les torts du monde, mais comment est-ce que socialement on peut accepter ça? Et surtout qu'il serait parfaitement légitime que nous prenions la décision collective de favoriser davantage d'égalité, et donc par des redistributions de la richesse, et ça se ferait sans doute à l'avantage de tous, et peut-être même des plus riches. Des études très intéressantes auxquelles on fait référence dans le livre montrent des corrélations très importantes entre les niveaux d'égalité ou d'inégalité d'une société et un certain nombre d'indicateurs, par exemple la santé, l'éducation. Et donc, ce que l'on découvre, c'est que plus une société est égalitaire, plus les gens sont en santé, plus ils sont éduqués, plus ils se sentent en sécurité, plus ils le sont, en fait. Et donc, il y a aussi de vrais arguments d'intérêt collectif, pas simplement des arguments moraux, qui appuient cette redistribution.
Marc Fiorentino, bonjour.
Oui, une fois de plus, on est dans une incohérence totale. Bien sûr qu'il faut aider les ménages défavorisés, ça c'est une évidence. Le problème, Stéphane, c'est qu'on n'est pas au pays des bisounours. Un État déficitaire et surendetté, il n'en a pas les moyens. Ce sera donc à nouveau les classes moyennes et plus qui paieront. On n'est plus dans la solidarité, on est tout simplement dans la confiscation. Et on crée surtout une incitation pour ceux qui peuvent générer de la richesse et donc des emplois à ne rien faire. C'est finalement le meilleur moyen de payer moins d'impôts. Ceux qui n'ont pas quitté la France pour raison fiscales sont donc incités aujourd'hui à lever le pied quand ils le peuvent.
I'm Donald Trump and I approve this message.
Donc si on a l'impression qu'une personne s'est élevée au plus haut sommet domaine particulier et a été capable d'accumuler énormément de ressources par ses propres moyens, par justement son seul talent, ben, on va peut-être être plus frileux à justifier une imposition très très exigeante de la part de l'État. D'un autre côté, si on considère que la seule façon d'expliquer le succès d'un individu, c'est par justement un effort collectif, c'est par le fait qu'il a profité d'un contexte particulièrement propice au développement de ses talents ou à l'exploitation de ses talents, bien, on peut avoir une justification de politique fiscale exigeante pour les plus nantis qui est beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus facile à justifier.
Une justification philosophique de l'impôt, voilà.
D'un impôt et d'un impôt progressif et particulièrement exigeant pour justement les mieux nantis.
parce que c'est devenu, depuis cette même période où s'est imposée cette idéologie libérale, c'est devenu presque un sport, c'est devenu en tout cas une profession, c'est le génie fiscal sur comment éviter, comment payer moins d'impôts, et c'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui en Europe, en tout cas et dans tout le monde occidental, c'est que plus on est riche, plus on gagne de l'argent, et plus on gagne de l'argent, plus on aura des ressorts pour en payer moins.
L'évasion ou l'optimisation fiscale est un problème très sérieux, peut-être le problème le plus sérieux de notre temps. C'est certainement la plus grande menace à la justice sociale, éventuellement à la démocratie. Mais les gens ne sont pas trop choqués par ces pratiques parce qu'on n'arrive pas à se défaire de cette conception du droit de propriété comme droit naturel.
Ouais.
Alors on est pris avec cette idée que toute intervention qui consiste à prendre une part de ma richesse pour la redonner à d'autres, pour offrir des biens et services, est considérée comme illégitime. Mais il faut... Ça, c'est voir les choses à l'envers. Le droit de propriété n'est pas un droit naturel qui précéderait les institutions sociales. Le droit de propriété est une institution humaine qui dépend de la coopération sociale. Et donc, les limites de ce droit de propriété sont le résultat d'un choix collectif et non pas le miroir parfait de ce que je mérite.
Je l'ai gagné.
Je l'ai gagné, c'est à moi. Alors que c'est bien le contraire. C'est la société qui met en place les conditions institutionnelles, notamment, qui permet l'économie de marché et donc le fait d'obtenir un revenu.
La démonstration que vous faites dans votre livre, c'est que loin d'être un vol, une captation indue de l'argent produit par des individus et du fait de leur effort, de leur travail et de leur talent, vous prouvez que taxer les plus riches leur bénéficie à eux aussi. Et ce n'est pas juste pour faire vivre ceux qu'on appelle les assistés, ceux qu'on appelle les sans-dents.
Oui, exactement. L'idée est de rétablir un peu la distribution des ressources sur la base des contributions faites par chacun et d'éliminer le biais du marché qui est biaisé en faveur de certains types de contributions.
Continuez, je regarde juste les prix des vêtements Chanel pendant ce temps-là.
Oui, je crois qu'on ne fera pas beaucoup de shopping ici non plus.
Tu peux quelque chose à ton épouse?
Voilà, ouais, le petit top est à 15 650 francs, euros.
Ouais, donc la robe pour jeune fille était une aubaine alors. Le problème, en fait, en plus, c'est que la satisfaction qu'on retire dans la consommation est condamnée à nous insatisfaire parce que le revenu ne permettait pas de prédire le niveau de bonheur. Parce que, comme l'a montré l'économiste Robert Frank, on est condamné, en fait, à se comparer avec les gens qui nous entourent. Et grosso modo, si vous avez la plus belle voiture du quartier, on se fout de savoir quelle est cette voiture. L'important, c'est que vous ayez la plus belle pour en être satisfait. Donc, si vous conduisez une Porsche, mais que vous avez la plus petite Porsche de toute la rue, eh bien, vous serez plus malheureux que celui qui conduit une petite Fiat, mais qui a la plus jolie voiture de toute la rue. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas imaginer atteindre un état de satisfaction par la consommation, dans la mesure où, évidemment, tout le monde recherche une chose, ce n'est pas d'être bien habillé, c'est d'être le mieux habillé. Mais donc, on entre dans une compétition qui nous condamne à l'insatisfaction. Et donc, à partir du moment où on connaît ce mécanisme psychologique-là qui fait en sorte que la comparaison va toujours nous condamner à l'insatisfaction, bien, on est au moins capable de rationaliser la chose et d'être capable de, justement, évaluer nos besoins, pas en termes vraiment de ce qu'on aimerait habiter comme appartement, mais plutôt véritablement ce dont on a besoin réellement pour justement arriver à remplir les différents besoins qu'on a en tant qu'individu ou en tant que famille.
Dans l'idéologie actuelle, on accorde énormément de place au mérite individuel, au talent, aux efforts. On veut remettre cela en question.
J'aime pas les gens qui crèvent la dalle, ni les manants qui tapent son bal. Ni les mendiants qui puent le sale, car moi je suis riche comme papa. Je suis riche, c'est comme ça, je suis riche, merci papa. Je suis riche, 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 je suis riche. Je suis riche, 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 je suis riche
je suis riche, 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 honnêtement gagné, je suis riche, je suis riche.
Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grippins, c'est le livre de David Robichaud et Patrick Turmel. Et si vous voulez savoir ce que les grippins ont à voir avec tout ça, retrouvez leur livre aux éditions Les Liens qui Libèrent.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur les sites de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Après les informations, vous retrouvez la preuve par Z. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.